Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce dimanche 10 novembre, les incendies dans l'est de l'Australie. Au moins 3 personnes sont mortes et quelques 150 maisons et écoles ont été détruites. Un jeune autochtone de 19 ans est décédé après avoir été abattu par la police hier samedi dans la communauté de Yuen Dumu au nord-ouest de Alice Springs. En Australie donc, les services d'incendie en région rurale en Nouvelle-Galles du Sud exhortent les habitants à rester vigilants et préparés car les conditions de météo pourraient permettre à des incendies chaotiques de se rallumer au cours de la semaine. À l'heure actuelle, les incendies dans les zones d'urgence ont été déclassés en avertissement de vigilance, mais les pompiers préviennent que ces incendies risquent de se rallumer. Le commissaire adjoint du service d'incendie en Nouvelle-Galles du Sud, Rob Rogers a déclaré que les zones dans les régions de Sydney, du centre-ouest d'Illawarra et de Hunter, où il n'y a pas encore d'incendie, sont à risque extrême.
We'll be communicating with the community over the next 24 hours as far as what our advice to them is. And certainly for those areas that are fire affected and expected to become problems again on Tuesday, we'll be coming out with specific advice to areas there as to how prepared those areas are and how safe those areas are and what we can do to ensure that we're as ready as we can be on Tuesday to support those areas already being threatened by fire as well as those areas that could get new fires.
Dans le Queensland, les résidents évacués restent dans le noir alors que les conditions qui attisent des dizaines d'incendies à travers le Queensland se poursuivent. Un état d'urgence a été déclaré hier samedi dans 42 régions locales interdisant tous les feux en plein air et les activités telles que la soudure qui peuvent provoquer des incendies. Le commissaire par intérim des services d'incendie et d'urgence, Mike Wassing, a déclaré que des conditions dangereuses devraient se maintenir au cours des prochains jours.
But Wednesday again, we're into high temperatures again and windy conditions again. So our key message to people that aren't in immediate areas of fire impact is to remain vigilant and please help us to make sure that we don't have new fires start and remain vigilant. Look after your family, look after your neighbours, look after those within your local community.
Les images des feux en Australie font le tour du monde, comme l'explique Heike Schmidt pour Radio France Internationale.
Un ciel rouge-orange, des flammes qui engloutissent des forêts d'eucalyptus. Des images postées sur les réseaux sociaux montrent l'ampleur des incendies sur la côte est de l'Australie, au nord et au sud de Sydney. Quelques 1300 pompiers et 70 avions peinent à maîtriser plusieurs dizaines de feux de brousse, pour l'heure sans y parvenir. Nous n'avons jamais eu autant d'incendies en même temps, a déclaré un responsable des pompiers à la chaîne de télévision publique ABC. Au moins 150 maisons n'ont pas résisté aux flammes. Les feux se sont répandus avec une telle vitesse en Nouvelle-Galles du Sud que de nombreux habitants n'ont pas pu être évacués à temps. Des radios locales ont interrompu leur programme afin de donner des conseils de survie à ceux qui se retrouveraient bloqués dans leur maison ou dans leur véhicule. Le corps d'un homme carbonisé a été retrouvé dans une voiture. Au cours du week-end, les vents forts devraient toutefois se calmer, les températures baisser pour offrir un répit sur le front de ces incendies.
En Australie, l'ancienne députée Karen Phillips a demandé au gouvernement fédéral à renoncer à sa tentative d'abroger la loi d'évacuation médicale. Le gouvernement a annoncé qu'il poursuivrait cette semaine au Sénat son intention de supprimer cette loi qui permet aux médecins de participer au transfert des demandeurs d'asile d'une détention offshore vers l'Australie pour des soins médicaux. Madame Phillips a déclaré aux manifestants rassemblés à Sydney hier qu'il est important que la loi reste en vigueur.
And it will most likely come down to just one vote by one senator as to whether we can continue to save lives. Because without this law, we go back to the old way where bureaucrats were making the decisions about healthcare and about medical transfers and not doctors and healthcare professionals. We must save Medivac so we can continue to save lives.
De nouvelles données indiquent que plus de 100 000 familles australiennes sont touchées chaque année par une anxiété et une dépression périnatale. L'enquête menée par Perinatal Anxiety and Depression Australia a également révélé que la moitié des futurs pères craignent d'être un parent terrible et que les trois quarts des futurs parents s'engagent dans plus de conflits que d'habitude. Julie Borkinhoff, directrice générale de Perinatal Anxiety and Depression Australia, a déclaré que peu de gens savaient comment demander de l'aide pour exprimer leurs émotions immédiatement avant et après avoir eu un bébé.
At a time when families are really heavily involved in checkups with health services or surrounded by their friends or communities, people either don't know how to raise their concerns or they really feel unable to ask for help. If left untreated, perinatal anxiety and depression can have a massive impact and devastating impacts on people's lives, putting them and their loved ones at risk.
En France, avec la manifestation contre l'islamophobie ce dimanche 10 novembre à Paris, la classe politique est divisée, comme nous l'explique Simon Rosé pour RFI.
Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France insoumise, y sera. Marine Le Pen, elle, dénonce une marche main dans la main avec les islamistes. La dirigeante du Rassemblement national qui fait référence à la présence du collectif contre l'islamophobie en France parmi les organisateurs. Une manifestation qui sent d'ores et déjà le souffre tant elle a suscité de commentaires toute la semaine dans un contexte bien particulier sur les questions de laïcité et de port du voile en France. À l'origine, il y a pourtant un simple appel, une tribune écrite en réaction à l'attaque de Bayonne qui avait visé une mosquée, une tribune qui appelait à la fin de ce que les signataires considèrent être la stigmatisation des musulmans en France. Mais voilà, ce texte a choqué, notamment un passage qui sous-entend l'existence d'un racisme d'État à l'encontre de cette communauté. Reste que le malaise est réel. Dans un récent sondage, près de la moitié des musulmans du pays déclarent avoir été victimes, au moins une fois, de discrimination à cause de leur religion. Au-delà des polémiques, les participants à cette manifestation ont donc au moins ce but, montrer à leurs compatriotes musulmans qu'ils sont des Français comme les autres.
À Maurice, la coalition du Premier ministre sortant, Pravin Jugnauth, a largement remporté les élections législatives de jeudi dernier. La coalition, l'Alliance mauricienne, composée du MSM, le Mouvement socialiste mauricien, et du Mouvement libérateur, a obtenu 38 sièges. L'Alliance nationale, menée par Navin Ramgoolam, a obtenu 14 sièges. Navin Ramgoolam, leader du Parti travailliste et ancien Premier ministre de 2005 à 2014, a été battu dans la circonscription où il se présentait. Le mouvement militant mauricien de Paul Béranger a obtenu 8 sièges. Sa fille Johanna Béranger, qui se présentait pour la première fois à des législatives, est élue à la première place. L'OPR, l'Organisation du Peuple Rodrigue, a obtenu 2 sièges. L'OPR est un allié du gouvernement. Le taux de participation était de 76,84%, en hausse de celui de 2014 de 74,11%. 6813 personnes n'ont pas pu voter, ne figurant pas sur les listes électorales. Les électeurs ne s'étaient pas inscrits. La majorité absolue à l'Assemblée nationale à Maurice est fixée à 32 députés. La commémoration hier de la chute du mur de Berlin, la chancelière allemande Angela Merkel a appelé à la défense des valeurs. La percée importante de l'extrême droite dans l'ex-Allemagne de l'Est a aussi été évoquée. L'ex-RDA, où il y a des salaires, des retraites et un niveau de vie moins élevé qu'à l'Ouest. Écoutez le théologien Frank Richter, un des acteurs de la révolution de 1989.
Il y a d'abord eu un recul démographique massif. Les plus jeunes, les plus flexibles, ceux qui aiment le risque sont partis. C'est une évolution négative pour la société. Deuxième facteur, la désindustrialisation. La première, en 45, avec les réparations au profit des soviétiques, et la deuxième, il y a 30 ans. Les privatisations ont traumatisé de nombreuses personnes. Ensuite, par rapport à d'autres pays de l'Est, les gens ici ont perdu leur souveraineté. Les Allemands de l'Ouest, dont nous avions besoin, occupent encore aujourd'hui la plupart des postes de responsabilité. Enfin, la sécurité que garantissait la RDA où votre vie était programmée du berceau au cercueil a disparu. Si on ne se rebellait pas, on pouvait mener une petite vie tranquille. Après 89, les gens ont vu leur existence remise en cause et de nombreuses incertitudes sont apparues. L'extrême droite exploite ces différents facteurs et proclame « Nous organisons la résistance contre le système. Nous allons vous venger. »
En Bolivie, le président Evo Morales a dénoncé un coup d'État après les mutineries d'au moins 3 compagnies de police vendredi. Le ministre de la Défense exclut toute intervention militaire pour l'instant. Écoutez Claude Le Guil, chercheur associé au Centre de recherche et de documentation des Amériques. Il est sur RFI.
Pensons qu'il y a une coordination, c'est-à-dire que cette il y avait un appel déjà depuis plusieurs jours à la mutinerie hein, par certains opposants et on voit que voilà cette mutinerie qui a commencé à Cochabamba, elle s'est étendue quand même en quelques heures dans quasiment les plus grandes villes du pays jusqu'à la Paz, donc siège politique du gouvernement. L'arrivée des policiers change le rapport de force et cela n'est pas anodin dans le contexte bolivien, sachant qu'en 2003 il y a déjà ce qu'on a appelé le février noir, c'est-à-dire une mutinerie de la police qui était rentrée du côté des manifestants, qui manifestaient contre la hausse d'un impôt. Et cela avait fini par un massacre, les forces armées avaient été intervenues, avaient attaqué la police. Et ce massacre est encore présent dans toutes les mémoires. Alors le gouvernement a exprimé son souhait de ne pas faire intervenir l'armée pour le moment. Donc il a précisé qu'il n'y aurait pas de nouveau février noir.
En Irak, quelques semaines après le début des manifestations anti-gouvernementales, les affrontements continuent entre forces de l'ordre et manifestants à Bagdad. Hier, il y a eu des morts selon des sources médicales. La contestation, je rappelle, réclame le départ du gouvernement jugé incompétent. Sami Boukhelifa est l'envoyé spécial de RFI sur place.
Simple tir de sommation ou tir dirigé vers la foule, difficile de l'affirmer avec certitude, c'est la confusion totale ici à Bagdad. Les affrontements ont lieu en centre-ville à une centaine de mètres de l'emblématique place Tahrir occupée par les manifestants. Les forces de l'ordre cherchent à les en déloger. Elles lancent des gaz lacrymogènes qui se mélangent à une épaisse fumée noire, un écran de protection voulu par la foule qui a mis le feu à des pneus de voiture. L'objectif, brouiller la vision des forces anti-émeutes pour ne pas être pris pour cible. Résultat, l'air est irrespirable, un cocktail toxique qui provoque des suffocations. Les ambulances filent à toute allure, des mototaxis transportent également les blessés vers des centres de soins improvisés. Sur place, médecins et secouristes bénévoles les prennent en charge. Au son des tambours, de jeunes Irakiens préparent leur contre-attaque. À bout de bras, ils portent des sacs remplis de pavés. Ils veulent à tout prix riposter. Mais contre qui ? Certains accusent la police et l'armée d'être à l'origine des violences. D'autres sont persuadés d'affronter des miliciens à la solde du pouvoir.
Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie, perf maximale de 28 degrés, Adélaïde 22, Melbourne 18, Hobart 18 également, Canberra 21, Sydney 24, Brisbane 31, Darwin 35 et à Alice Springs maximale de 34 degrés. Un rappel des grands titres de ce 10 novembre. Des incendies dans l'est de l'Australie. Au moins 3 personnes sont mortes et quelques 150 maisons et écoles ont été détruites. Un jeune autochtone de 19 ans est décédé après avoir été abattu par la police hier samedi soir dans la communauté de Yuen Dumu à 266 km au nord-ouest de Alice Springs. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.